Jean-Dominique Sénard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vu ce programme qu'on vous a préparé.
Oui,
tout ça. Tout ça en quelques minutes. C'est compliqué. Vous avez signé il y a 10 jours. C'est ça qui m'a donné envie de vous inviter. Vous avez signé il y a 10 jours une tribune dans le Figaro dans laquelle vous déclariez inquiet de la baisse de l'engagement des Français au travail. Qu'est-ce qui vous a motivé à intervenir sur ce sujet et à parler d'irresponsabilité illimitée dans la société française?
Ça ne date pas d'hier. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec Nicole Notat sur un rapport sur le rôle de l'entreprise. On l'appelait l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui déjà faisait ressortir une soif de sens au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé beaucoup de raison d'être, rappelez-vous, d'entreprise à mission, etc. Tout ceci pour cristalliser le fait qu'il y avait une soif de sens. Et devant le thème général de la perte de repères, etc., les institutions qui faiblissent, etc., manifestement, l'entreprise avait un rôle à jouer. Et lorsque nous avons traité ce sujet, on a compris assez vite qu'on traitait là la question du sens collectif. L'entreprise pouvait apporter un sens collectif au travail, à travers sa raison d'être, justement, qui est un peu une colonne vertébrale de sa stratégie, etc. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. C'est qu'au fond, les chiffres en parlent d'eux-mêmes. Alors, il y a plein de statistiques, mais elles sont assez concordantes. Vous avez une majorité de Français aujourd'hui qui considèrent que le travail n'est pas épanouissant, que c'est plutôt une contrainte. Vous en avez une très petite minorité qui considère que c'est important dans leur vie, alors qu'il y a 30 ans, il y en avait 60%. Enfin, bref. On pourrait en citer beaucoup. Et cette espèce de désengagement vient du fait qu'il non seulement il manque un sens collectif souvent, mais il manque un sens individuel. Et lorsque l'année dernière, j'ai rendu avec Sophie Thiry, qui dirige la commission emploi-travail du CESE, un rapport au gouvernement qui s'appelle « Reconsidérer le travail », après quelques mois intenses de travail avec tous les milieux sociaux français, etc., on a vu qu'il y avait une forme de déficit majeur en France, de respect, d'écoute et de reconnaissance. Et c'est sorti par tous les pores de la peau. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, ça, c'est le sens individuel.
Alors, Jean-Dominique Sénard, vous parliez de l'entreprise à mission et vous parlez d'écoute individuelle des salariés pour les réengager, les remobiliser, oui, les remotiver. Oui. Est-ce qu'on n'a pas fait fausse route en incitant les entreprises à communiquer sur leur mission, à communiquer sur l'écologie, à communiquer sur l'inclusion, qui sont des sujets à la fois politiques, qui sont des sujets de société, mais qui ne parlent pas à l'individu qui veut plus de sécurité au travail, plus de motivation, plus d'argent aussi? Est-ce qu'on ne s'est pas planté en faisant du sociétal au lieu de faire de l'individuel?
Mais c'est pour cela qu'il faut les deux. Il faut le sens collectif et le sens individuel. Voyez-vous, il y a trois leviers pour la notion de sens. Vous avez d'abord les finalités du travail, et que c'est à travers cela que l'on voit si l'entreprise est capable de se dépasser elle-même, de s'occuper de sujets qui dépassent son quotidien. L'environnement, les questions sociales en font partie. Et puis, effectivement, ça peut donner une forme de perspective aux salariés. Vous avez également le contenu du travail, qui évidemment est la façon dont les choses sont à peu près réglées, soit un équilibre à peu près correct entre ce qui est l'exécution bien comprise et puis la formation. Et puis aussi, vous avez une chose absolument essentielle qui est finalement la manière dont ce travail s'exécute au quotidien, c'est-à-dire les conditions d'exécution du travail. Et là, la question de la responsabilisation prend tout son sens. Si vous n'avez pas les trois éléments ensemble, vous ratez ou bien le sens collectif, ou bien le sens individuel, et vous perdez les repères.
On parle de baisse de la productivité française, qui est un sujet connexe à celui dont vous parliez à l'instant. Cette productivité française est en baisse, comment vous l'expliquez?
Il y a énormément d'explications derrière cela, et je ne suis pas certain qu'elles soient toutes tout à fait valables. Peut-être que c'est un ensemble de choses. On parle du fait que les Français travaillent moins longtemps que dans d'autres pays, on parle de questions d'absentéisme, on parle d'arrêt maladie, on parle de retraites qui sont anticipées, etc. Bon, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. On a même parlé de l'apprentissage, qui est, lui, au contraire, plutôt en hausse, en épanouissement, ce qui est une bonne chose. Tous ces éléments-là concourent au fait que, en effet, la France présente un bilan de productivité extrêmement faible, ce qui est d'ailleurs très préoccupant pour l'attractivité du pays, et surtout pour ses performances économiques dans l'avenir. Donc je crois qu'il y a un ensemble de fonctions, mais si vous me permettez, je vais revenir au point central qui est celui de la responsabilisation. Parce que je suis absolument persuadé que cette absence de productivité a quelque chose à voir avec la motivation profonde des salariés ou des collaborateurs, et que s'ils se sentaient responsables, reconnus et respectés, il y aurait probablement un élan nouveau dans le pays. Et ça concerne les entreprises privées, ça concerne énormément à la fonction publique, et ça concerne aussi nos institutions dans le territoire, parce que finalement l'organisation, je dirais, de nos institutions publiques, en particulier territoriales, aujourd'hui, ont soif d'une grande responsabilisation et peut-être d'une, comment dirais-je, d'une mise en situation, mise en exposition plus forte. Et moi, je pense que on peut dire toutes les statistiques de la Terre, mais la responsabilisation est au cœur du sujet.
Et c'est la responsabilité des chefs, des managers.
Oui, toujours.
C'est eux qui engagent, c'est eux qui donnent le sens, c'est eux qui disent merci aussi.
Oui.
C'est eux qui rémunèrent.
Oui, toujours.
Qu'est-ce qui est en panne, Jean-Dominique Sena?
Ce qui est absolument fondamental à comprendre, c'est que les managers sont clés. Mais ça veut dire un vrai changement de perspective. Pour faire simple, un manager aujourd'hui, qu'il soit tout en haut de l'entreprise ou pas, c'est pas grave, le management intermédiaire n'est pas péjoratif, il joue un rôle fondamental, il doit comprendre qu'il est là pour fixer le cap, il est là, en quelque sorte, pour changer d'état d'esprit, de ne pas être un hiérarchique, comme on disait autrefois, il doit cesser de commander le matin, de superviser l'après-midi et de contrôler le soir. En revanche, il doit devenir quelqu'un qui développe les talents et qui est là pour résoudre les problèmes de son équipe à laquelle il a donné une autonomie. Vous savez, l'autonomie et la responsabilisation, c'est pas simple. C'est un sujet compliqué. Il faut du temps, il faut changer les états d'esprit. Le rôle des managers change, et de mon point de vue, il s'enrichit quand on passe à la responsabilisation, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de formation. Ce n'est pas, en quelque sorte, l'autogestion.
Vous présidez le conseil d'administration d'un des principaux groupes industriels français, Renault Group. La réindustrialisation de la France, c'est un dossier qui mobilise l'État, qui mobilise évidemment le mouvement des entreprises françaises. Quels sont les facteurs ou les décisions qui peuvent accélérer cette réindustrialisation de la France?
D'abord, il faut un peu la foi du charbonnier, si je puis dire. En ce qui me concerne, j'ai toujours consacré beaucoup de mon énergie à faire en sorte que la France pouvait garder son industrie, que ce soit chez Michelin ou chez Renault. Et aujourd'hui, avec Luca de Meo, qui, comme vous le savez, est directeur général du groupe, on partage ce souci d'avoir en France une industrie extrêmement vivante. Et tout ce que nous faisons pour le développement de nos véhicules, notamment les véhicules électriques en France, est une parfaite illustration. Et là, on y va, on fait le pari de la France. Et comme je dis souvent, quand on fait le pari, c'est pas toujours gagné d'avance. Donc il y a un certain nombre de conditions pour que ça marche. D'abord, une grande volonté des dirigeants de faire en sorte que nos usines soient pleines comme des œufs, de faire en sorte que s'agissant de Renault, des modèles qui sortent aujourd'hui, que vous avez vu, avec un certain succès d'ailleurs.
Hein, la fameuse Renault 5, jaune citron.
Luca de Meo et son équipe ont fait quelque chose d'extraordinaire et nous avons devant nous une perspective heureuse. Mais il va falloir être compétitif et vous avez évoqué cette question tout à l'heure de la compétitivité de la France, elle n'est pas encore gagnée. La productivité fait partie. Donc nous avons décidé de le faire. Il y a quelques conditions majeures qui sont en fait les défis d'aujourd'hui, qui sont la question de l'énergie. Il va falloir s'assurer que nous ayons une énergie qui soit à la fois décarbonée, mais en quantité et pas trop chère. C'est fondamental pour notre industrie, vraiment. Et puis, il va falloir s'assurer, alors s'agissant de l'automobile, de véhicules électriques, etc., de la capacité que nous pouvons avoir à maîtriser les ressources de matériaux nécessaires pour fabriquer ces batteries qui serviront à l'électrification du véhicule. Vous avez compris qu'on a des défis colossaux qui sont apparus après la décision de Bruxelles d'arrêter en 2035 la cession, la vente dans le marché de véhicules thermiques.
C'est une bonne décision.
C'est une décision intelligente et intéressante, mais elle a été faite sans analyse d'impact.
Luca de Meo nous a dit ici même que la voiture électrique, c'était un truc de riche. Et ensuite, il a précisé, c'est une révolution de riche.
Cette façon de lui de parler qui est tout à fait illustrante. Il a raison de dire aujourd'hui, le véhicule électrique est un véhicule cher. Et donc, il faut absolument, pour arriver à respecter cette réglementation, que ces véhicules soient en termes, je dirais, de marché, compétitive. C'est d'ailleurs pour cela que l'État soutient ce véhicule. Alors, c'est pas le cas en Allemagne qui vient de décider d'arrêter les subventions, et comme par hasard, vous avez vu que le marché des véhicules électriques commence à baisser.
L'Europe veut taxer les véhicules électriques chinois, elle a raison. Pour protéger l'industrie, protéger le commerce des voitures électriques en France.
C'est-à-dire, il faut une concurrence équilibrée et réciproque. Nous avons été naïfs pendant des années, ça suffit. Mais il y a, lorsque l'on parle de concurrence réciproque et j'allais dire saine, un moyen intelligent de le faire, ce que la France d'ailleurs a mis en œuvre récemment, qui consiste à subventionner les véhicules électriques qui sont fabriqués selon certaines conditions qui permettent d'assurer qu'elles ont été faites dans des conditions de soutenabilité environnementale. Il faut que la France maintienne sa disposition et que ça gagne l'Europe. Si l'Europe fait ça, ce n'est pas du protectionnisme, c'est tout simplement une forme de concurrence réciproque intelligente. Et je pense que dans ce sens-là, ça va bien.
Jean-Dominique Senard, ancien président de Michelin, président du conseil d'administration de Renault Group, est-ce qu'il faut augmenter les salaires ?
Voyez-vous, j'ai travaillé aussi, notamment dans le cadre de l'Institut Montaigne, dont surtout que j'ai l'honneur d'être vice-président, sur un document sur le partage de la valeur. Pour moi, c'est sous cet angle-là qu'il faut le regarder. Nous avons en France des dispositions extraordinaires qui s'appellent la participation et l'intéressement. Et en travaillant sur le sujet, au début, je me disais, il va falloir simplifier tout ça, c'est compliqué, etc. Est-ce que ça est soutenable dans la durée ? Et puis la réalité, c'est qu'en fait, il ne faut surtout rien changer. Il y a une chose à faire, par contre, c'est plus s'en servir plus. Et si j'ai une recommandation à faire, alors je ne suis pas en situation de le dire, peut-être légitimité, mais enfin tout de même, au patron français, c'est d'utiliser ces outils qui sont uniques au monde, qui sont absolument géniaux, qui ont été créés par le général de Gaulle, d'ailleurs en particulier, s'agissant de la participation, très tôt dans l'histoire de France, si je puis dire, et qui ne sont pas assez utilisés aujourd'hui. Et voyez-vous, lorsque chaque année on se pose la question des salaires, des questions des primes, rappelez-vous les primes Macron, etc., etc., pour moi ça n'a de sens que si on les intègre dans un système extrêmement intelligent qui sont celui de la participation et de l'intéressement. Et si je peux me permettre une chose, c'est tellement intelligent que j'aimerais bien que la responsabilisation dont on parlait au début devienne en quelque sorte un objectif de la même nature. Je pense que c'est important pour la France, c'est important pour son avenir. La participation est une chose de nature à répondre à la question que vous venez d'évoquer, beaucoup plus intelligemment, parce que c'est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus intelligent.
Oui, mais Jean-Dominique Senard, je vous pose la question.
Et la responsabilisation doit en faire partie.
Peut-on engager les ressources humaines, engager les salariés sans leur parler d'augmentation de salaire ?
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez raison, c'est un élément que les salariés ont en tête comme pratiquement le premier objectif. C'est d'ailleurs pas forcément la bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'évoquais la question
des engagements. Non, mais parce qu'on dit aux gens chics qu'on est une entreprise à mission, ils disent oui, combien tu me payes ?
Parce que je pense que le salaire est une chose importante et je crois qu'il faut y veiller. Et je pense sincèrement, si je pense le cas de Renault, sincèrement, on a fait ce qu'il fallait. Alors, c'est peut-être pas parfait, mais je pense que nous avons fait des négociations salariales qui se passent très bien et qui ont été parfaitement, je dirais, acceptées. C'est une vigilance permanente. Mais je pense que ça ne suffit pas et que l'élément supplémentaire pour que les gens soient épanouis au travail, c'est pas qu'ils ne pensent qu'à leur salaire, qui est une chose essentielle. Je le reconnais volontiers. Je l'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. Mais je pense qu'il faut qu'ils pensent à autre chose aussi et qu'on leur apporte un épanouissement qui vient notamment à travers ces questions de responsabilisation, cette question d'autonomisation, cette question qui leur permet d'être reconnus. Beaucoup de Français aujourd'hui, je vous le cache pas, c'est sorti partout dans les travaux qu'on a pu faire, ont besoin de ça.
Un patron, c'est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail. Citation de Jules Romain, attribuée à Jules Romain, dont je ne me lasse pas. Jean-Dominique Senard, merci.
Merci.
Président du conseil d'administration de Renault Group, ancien président de Michelin, invité de Radio Classique ce matin. Merci d'être venu parler à ce micro.
Merci beaucoup.
À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Luc Ferry, notre esprit libre du lundi.